Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures désormais passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, en ce samedi 26 novembre 2022, nous vous proposons un Radio Archive. Alors si vous êtes un fidèle de l'émission, vous connaissez le principe des Radio Archives de Wagon Livre sur Radion. Depuis plus de 12 ans qu'existe votre émission littéraire, nous disposons d'une riche sonothèque variée d'interviews et d'entretiens avec des romancières, des romanciers, des essayistes, des journalistes, des bourguignons ou des figures nationales. Et donc nous opérons une petite sélection, nous réécoutons, nous sélectionnons des extraits que nous vous proposons donc en nouvelle diffusion. Au sommaire de notre émission, nous reviendrons avec Gérard de Cortance sur la Nuit de la Nation, le 22 juin 1963 à Paris. Avec nostalgie, nous reviendrons sur ces années yéyé, rock, où les Français avaient alors des idoles. Nous nous rendrons à Saulieu pour évoquer la maison Bandelier avec l'architecte Cyril Brûlé, une maison extrêmement originale conçue au milieu des années 50 par un disciple de Le Corbusier, André Wojcinski. Et puis nous terminerons cette émission en gourmandise, coquinerie et érotisme fripon avec Régine Tessot, qui avait fait paraître il y a quelques années aux éditions Erol un ouvrage intitulé « 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté ». Mais on ouvre ce wagon livre avec un extrait d'un entretien enregistré avec le comédien et romancier Richard Bohringer. C'était le 9 octobre 2011 lors du Salon du Livre de Migennes dans Lyon. Et au cours de cet entretien, Richard Bohringer évoquait son dernier roman paru chez Flammarion et intitulé « Les nouveaux contes de la cité perdue ». Richard Bohringer.
J'aimerais, Richard Bohringer, qu'on revienne un petit peu sur le thème de l'ivresse. Vous me disiez précédemment que l'ivresse ne permet pas de fuir la peur de la page blanche. Vous parlez de l'alcool.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah si ?
Non, j'ai pas dit ça.
Alors je vous ai mal compris alors.
Ah oui, j'ai dit que j'avais pas peur de la page blanche.
Ah d'accord. Mais l'alcool peut être aussi une fuite par rapport à beaucoup de choses. On peut boire pour fuir beaucoup de choses.
L'alcool, on va... Oui, mais tout le monde fuit l'alcool... Oui, l'alcool, c'est chiant, l'alcool. Mais c'est vrai qu'il y a des moments avec l'alcool où la fraternité, où les gens inhibés se désinhibent, les gens qui n'osent pas parler de leur chagrin, ils ont un coup dans le nez, ils se laissent aller, ils se déversent. C'est un moment très humain. Alors c'est chiant parce qu'après, après ça se gâte, mais... Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'alcool parce qu'ils étaient trop timides.
Dans « C'est beau une ville la nuit », vous écrivez « Fallait bien remplacer papa, mon papa à moi, c'était le bar ».
C'était le bistrot. Ouais, et alors ?
Et est-ce que le bistrot, c'est indispensable dans une existence ? Parce que même dans un lieu idéal, Polo et Thierry sont obligés de se retrouver au bistrot. Le bistrot aurait pu disparaître du lieu idéal.
Mais non.
Bon, c'est un ministère de la culture, le bistrot.
Mais évidemment que c'est le ministère de la culture, évidemment. Évidemment. C'est le ministère du peuple, le bistrot. C'est là quand on a mal, c'est là où on a le plus de chances de rencontrer d'autres gens qui ont mal et on va s'auto-penser, quoi, quelques heures, le temps de quelques coups, quoi. Après, évidemment, voilà, mais le bistrot,
c'est une thérapie.
C'est l'étable. Non, c'est pas une thérapie. C'est l'étable. C'est là où Jésus est né. Le bistrot, c'est...
Ça vous plaît, ce Jésus, dans le roman, d'avoir mis Jésus, ah, le barbu...
Non, mais moi, c'est mon pote, Jésus.
C'est un syndicaliste.
Jésus,
dans le roman, c'est un syndicaliste.
Jésus, le...
Enfin,
oui.
Il a défendu des gens qu'on...
Dans ce livre, c'est un syndicaliste, mais dans la vie, Jésus, c'est le premier socialiste du monde. Pas socialiste, François Hollande. Hein. Je dis vraiment socialiste. Vraiment à gauche, quoi.
Ah, vous savez pour qui vous votez l'année prochaine?
Je suis très emmerdé, je vous remercie.
Mais vous savez pour qui vous ne votez pas?
Oui.
Oui. Pour qui vous ne votez pas l'année prochaine?
Pour le président.
Vous ne l'aimez pas?
Je suis pas... Non, j'ai pas une très grande sympathie pour lui, non. Non, mais c'est pas parce que je suis de gauche hein, que je n'ai pas de sympathie pour lui. J'ai pas de sympathie non plus pour ceux qu'on va élire à gauche. Hein.
Mais comme vous parlez des anciens territoires dans votre roman qui sont dominés par l'ambition, l'argent roi, il y a même des habitants Rolex.
Ouais.
C'est toute la France un peu du Fouquet.
C'est la France du Fouquet, c'est la France de... Dedans.
Oui, mais Richard Bourringer, avec les cachets qui ont été les vôtres, vous avez fait partie de cette France d'en haut quand même.
Comment?
Avec les cachets qui ont été les vôtres, vous avez fait partie de cette France
non,
qui avait de l'argent.
Non.
Pardonnez-moi cette question, mais...
J'ai jamais...
Pas démuni, Richard Bourringer.
Mais non, mais c'est le problème, il n'est pas là.
Il n'y a pas de Rolex, vous.
Non.
Et avec mon bic.
Ni
mon blanc.
Vous voyez,
il a pas de... Ni mon blanc, ni... j'ai pas de bagnole, j'ai pas de résidence secondaire. Non.
Et moi, je vous crois, Richard, pour que vous mais... regardez avec...
Vous voyez là, à mon poignet, j'ai que le bracelet de mon village. C'est le type... C'est le bracelet qui appartient à cette ethnie.
C'est que vous êtes sénégalais, rappelons-le bien.
Et là,
et français.
Et là, j'ai les drapeaux de ma double nationalité. C'est voilà ce que j'ai. Voilà.
Vous n'êtes pas un homme attaché aux choses matérielles.
Ah non, pas, non. Non, pas. Non. Non, sérieusement pas.
L'esprit domine.
L'esprit domine. L'esprit domine et... Non. Non, j'ai pas fait ça, moi. J'ai sécurisé ma famille, ma belle famille, j'ai sécurisé tous ceux qui avaient besoin d'être sécurisés, mais moi, je... J'ai fait aussi beaucoup de trucs, mais j'ai pas envie d'en parler, voilà.
Mais est-ce que, comme John, vous avez avec lui en commun des sentiments d'échec, la peur de la vieillesse, la peur de l'absence de l'inspiration? Vous avez cela en commun avec lui?
L'inspiration, oui, j'ai peur, oui. La vieillesse, j'aime pas ça. J'aime chez les autres, mais je l'aime pas chez moi. Alors. Chez les autres, j'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'attention. Mais chez moi, je ne la supporterai pas.
C'est pour ça que vous écrivez que l'amour des mots est dangereux.
Ouais, mais chez moi, je sais. C'est inscrit, c'est mon... C'est mon...
Merci.
Non, je suis en train de parler, je signe le livre de madame.
Je vous fais une grosse bise.
Et
bien,
je ne fais pas les choses, je ne suis pas au supermarché.
Mais c'est bien,
voilà.
C'est très bien, c'est comme ça qu'on vous aime.
Ah ben alors, il ne faut pas être pressé.
C'est un réel bonheur.
Merci.
Que vous soyez là. Et vraiment, vous faites partie de mes acteurs préférés.
Merci madame.
Ah oui,
alors, c'est pour qui ils ont
c'est
vu?
Un bonheur. Alors, c'est pour Blandine, c'est pour moi.
Blandine?
Oui, Blandine.
Mais vous n'avez pas été mangée par les lions, vous?
Eh bien, vous voyez, pour vous voir, ils m'ont épargné. C'est
ils
un bonheur.
Ils vous ont épargné?
Ben, pour vous voir aujourd'hui, Blandine Marceau.
Ah oui, c'est mes potes, alors. Alors, vas-y.
Faut que je continue les questions?
Ouais.
Vous aimez les questions? Bon. On revient sur la difficulté de trouver l'inspiration. Finalement, en tant que créateur, vous trouvez les mots uniquement pour la réalité ou uniquement pour l'invention? Ce roman qui dénonce la société et le monde dans lequel on vit, qui devient un peu fou et qui devient très inquiétant, c'est le roman peut-être le plus sérieux? Là, vous écrivez, c'est l'histoire, c'est le prétexte à une invention?
Tout est sérieux. Tout est sérieux et grave, tout est gai et profond, je veux dire, dans la vie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, de science exacte de l'humain et de sa pensée. Il n'y a pas... On peut... Moi, j'ai une phrase comme ça qui est toute simple et qui... Je me lève con. J'ai toute une journée pour m'améliorer. Et il y a des fois, je me couche aussi con que je me suis levé. Basta. C'est tout. C'est ça, un humain. Il est tout le temps à volonté d'un... On meurt jamais achevé. On n'est pas fini quand on meurt. On est juste au bord de la connaissance. On touche à peine, on balbutie à peine la connaissance qu'on meurt. Donc on est jamais fini.
Alors Antoine Blondin, vous le connaissez bien, c'est un peu votre mentor, c'est quelqu'un que vous aimez bien.
Ah ça, vous avez vu ça sur Internet.
Oui, c'est faux, vous confirmez.
Non, c'est vrai, oui.
D'accord,
oui.
Alors vous savez qu'il a écrit « Tous les livres sont une lettre adressée à un ami ». Vous avez comme ça, le tout dernier, il est adressé à vos quatre enfants. Et c'est un livre que votre éditeur présente comme le livre peut-être d'un Richard Bohringer extrêmement engagé. Alors est-ce que c'est l'actualité brûlante aux quatre coins du monde, la politique en France, le monde qui devient un peu fou, le monde de la finance, le monde qui perd sa morale? C'est pour cela que Richard Bohringer reprend la plume et peut-être s'engage de plus belle?
Je ne reprends pas la plume, je ne l'ai jamais quitté.
Oui, mais un livre, c'est toujours un renouvellement. Il y a toujours quelque chose de nouveau, c'est un nouveau défi, une nouvelle aventure.
Il n'y a pas de défi, non. L'écriture n'a pas besoin de défi. L'écriture, c'est une chose sacrée, c'est une chose vivante, l'écriture. Les mots, c'est vivant, les mots. Il faut faire gaffe avec les mots.
Il en est beaucoup question, d'ailleurs, de l'écriture, à travers les personnages donc de votre dernier livre, qui s'intitule « Les nouveaux contes de la cité perdue ». Les nouveaux contes de la cité perdue, c'est aussi le titre d'un livre à venir. C'est le livre que Thierry John arrivera peut-être à écrire. On ne sait pas, d'ailleurs, s'il va réussir à l'écrire.
Mais il est écrit.
Oui. Mais le livre est très surréaliste, le décor est surréaliste, puisque pour présenter Thierry et Polo sont des amis, au point même que c'est une amitié presque fusionnelle, vous parlez même d'amitié éternelle, et on peut dire qu'ils se sont exilés, ils se sont réfugiés dans un lieu utopique, dévorés par la végétation, ou dévorés aussi par une canicule omniprésente. Un lieu étrange, où, entouré de marécages, de flaques marécageuses, où les reptiles ont élu domicile dans les canalisations. C'est la raison pour laquelle il y a des hommes torse nus qui chassent...
Les hommes torse nus, c'est la représentation des prolétaires, des travailleurs.
Oui, moi j'ai pensé aussi que c'était une sorte de nouveau défricheur.
Non, c'est les travailleurs, c'est les grands travailleurs d'une société, ouais. C'est les hommes torse nus. Ouais.
Ces hommes torse nus, donc c'est eux qui doivent effectivement construire cette cité idéale où se sont réfugiés, Thierry et Polo.
Non, ils ne sont pas réfugiés.
Ils ont quitté en tout cas les territoires anciens.
Un jour, ils ont rencontré un mec dans un bistrot qui était barbu, qui s'appelait Jésus,
oui.
Et qui leur a dit là-bas, il y a une possibilité d'une existence. Plus humaine, et ainsi de suite. Donc, ils ont pris la route, comme des milliers d'autres. Ils ont pris la route pour rejoindre cet endroit. Et là, effectivement, il y a un passage initiatique quand même, parce qu'on ne peut pas accéder aux choses, ni à la spiritualité, ni à l'universalité, sans qu'il y ait une initiatique, quoi. Quand même, donc, cette initiatique passe par cette tempête terrible annuelle, où il y a une création de mutants, d'hybrides, qu'il faut combattre après, et ainsi de suite. Et puis de nouveau, la terre redevient paisible et magnifique. Donc voilà, il y a une initiative. Au bonheur, au bonheur. Ça veut dire à l'équilibre d'une société, à sa justice, il y a forcément, il y a une initiative, quoi. C'est tout, c'est sûr, évidemment.
On reprend sur ce pays, ce lieu utopique. C'est un pays qui ne ressemble pas au nôtre, ce territoire nouveau. C'est un pays de fraternité. La fraternité, elle a quand même un peu disparu, et même si elle est sur la devise de notre belle République.
Non, Oui, c'est effectivement la possibilité d'espérance. C'est effectivement la possibilité, voilà, l'espérance que l'anathème ne soit pas sérieux, quoi. Que... Moi, je crois au sérieux de cet anathème. Je crois profondément que nous renaîtrons de nos cendres.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait tout détruire pour reconstruire quelque chose d'idéal ?
Je pense que tout va se détruire.
Oui. Vous pensez qu'il va...
Je pense que tout...
Ça va imploser.
Oui, mais ça ne sera pas comme ça. C'est pas la terre... Ça va pas être la... D'abord on a pas fait attention ces dernières décennies au fait que la nature est indépendante. La nature, elle ne nous appartient pas, elle a ses propres ordres, elle réagit, elle régit sa vie, la nature, selon. On a tous cru, on a considéré que la nature comme notre propriété, et d'une certaine façon, on a cru l'avoir domestiquée. Et enfin, non, la nature, personne ne l'a domestiquée, elle est indépendante, elle est puissante. C'est la force la plus puissante de toute l'histoire. La nature, elle est maîtresse du jeu, la nature. Moi, je l'aime, je suis animiste, donc la nature, pour moi, chaque caillou a une âme. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le truc, mais je ne suis pas un écolo, moi, je suis un animiste, c'est différent. C'est que les écolos, ils parlent pas de la nature en tant qu'âme. Moi, la nature, c'est l'âme.
Et c'est pour ça que vous avez présenté cette société comme emmitouflée, recouverte par la végétation, végétation la domine. La pierre n'existe pas.
La pierre, elle a été becquée par la végétation. Moi, vous savez, j'ai fait un truc en rentrant de chez moi, je voulais étonner un peu mes amis et surtout avoir à la maison un petit baobab. J'ai fait la pire des choses.
Qu'avez-vous fait ?
J'ai pris un petit baobab, il était grand comme ça, et je l'ai emmené en France. Le petit baobab, petit à petit, il a bien tenté de vivre, hein, parce qu'il est africain, il a du courage, quoi. Alors donc, il a bien tenté de vivre. Sortir une ou deux feuilles et tout, mais c'était trop dur pour lui, trop dur. Donc il est mort, le petit baobab. Et donc il est devenu comme un bout de fer, tellement. Et j'avais honte d'avoir fait ça, j'avais honte, mais très honte. J'ai gardé donc ça. Et quand je suis reparti chez moi là-bas, j'ai dit à Moussa, j'ai dit, viens, on va aller le mettre dans la savane, à côté d'un grand baobab. On est parti avec les camions, ce bout de bois, c'était un bout de bois noirci, dur, c'était plus rien. 2 mois après, Moussa, il m'appelle, je suis rentré en France. Il m'appelle, il me dit, pars, c'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne savais même pas qu'il a... Il me dit, c'est incroyable, il a repoussé, il est vivant, pas. Je dis quoi ? Il me dit, il est vivant. Et il était content. Parce que il me l'avait pas dit quand j'étais parti avec le baobab, mais ça lui fendait l'âme. Il savait bien que le petit baobab, il aimerait pas le pays où je l'emmenais. Il le savait bien. Et là, baobab, il a, je sais pas, il a... Ouais, il a bien 2 mètres de haut, ça sera jamais un grand baobab, mais c'est un vrai baobab.
C'était Richard Boringer, interviewé le 9 octobre 2011 au Salon du Livre de Migennes pour son nouveau roman à l'époque chez Flammarion qui avait pour titre « Les nouveaux contes de la cité perdue ». On va marquer un premier intermède musical et puis, juste après cette virgule musicale, nous entendrons Gérard de Cortance, romancier et essayiste, prix Renaudot 2002 pour Assam. Il nous parlera de la nuit du 22 juin 1963, dite la nuit de la nation. On se retrouve dans quelques minutes. Merci de rester avec nous. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Y'a comme un nuage devant le soleil, y'a comme du sang dans les groseilles. Je marche droit mais je suis tordu, je me suis trop approché, le gentil chien m'a mordu.
Trop de caresses,
pas d'amertume sans la douceur.
La douceur.
Châtiment.
C'est quoi ton crime? C'est quoi ta peine? C'est le silence quand je veux juste t'avoir.
Le silence. Le petit chien m'a mordu.
Trop de caresses.
Je me suis trop approché. Tout est devenu flou.
Fais-moi la leçon sur les distances.
Je me suis trop approché et je suis tombé.
Donne-moi le temps, je prends le silence.
Donne-moi le temps.
Donne-moi le temps, je prends le silence.
Donne-moi le temps.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Après cette pause musicale, reprenons notre radio-archive, cette fois-ci avec un extrait d'un entretien avec le romancier et essayiste Gérard de Cortance, enregistré le 25 avril 2018 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Gérard de Cortance a reçu le prix Renaudot en 2002 pour son roman Assam. Il est l'auteur de plus de 80 livres traduits en 15 langues. On lui doit notamment Les Vice-Rois, Frida Kahlo ou La Beauté Terrible, L'An Prochain à Grenade. Et puis en 2016, il avait fait paraître Zazou et également Laisse tomber les filles aux éditions Albin Michel, considéré comme le grand roman de la génération yéyé. Et puis il était également l'auteur d'un dictionnaire amoureux des 60s. Et justement, nous revenons sur une des entrées de ce dictionnaire, Nuit de la Nation. Il s'agit de la nuit du 22 juin 1963, explication par Gérard de Cortance.
En 62, Daniel Filippacchi, qui a déjà l'émission de radio Salut les copains sur Europe 1, décide de lancer un magazine qui va s'appeler Salut les copains. Pour fêter le succès immédiat, plus de 2 millions de lecteurs, magnifique, hein. Pour fêter le premier anniversaire de la sortie du numéro, disons que la première année, il décide d'organiser un concert gratuit sur la place de la Nation à Paris. On attend environ 5000 personnes.
Et le leader, c'est Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday, ils sont tous là, hein. Sylvie Vartan, tous, ils sont, les chaussettes noires, tous.
Eddie
tous
Mitchell.
Les, tous, il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Alors, il faut s'imaginer la place de la Nation à Paris. C'est une place qui est grande, mais qui n'est pas, c'est pas monumentale. C'est en 63, donc ce n'est pas éclairé du tout, ou très très mal. Il y a une petite scène. Ce ne sont pas les scènes énormes d'aujourd'hui. Ce n'est pas Woodstock, hein, la Nation en 63. La Sodo n'est pas très très bonne. Il y a 150 000 personnes qui déboulent. Il y a quelques quarts de police. Ce n'est pas les CRS... armés, pieds en cap, c'est quelques flics avec des caplines. Vous voyez, c'est tout juste, ils ne sont pas la police à vélo qu'on peut remarquer dans les films des années 30. Ça dégénère, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a 150 000 jeunes gens et jeunes filles, donc ça fait un peu de bruit. Bien, il y a ce qu'on appelle les blousons noirs. Alors, les blousons noirs, ce n'est pas très, très méchant, un blouson noir. Ça a 15-16 ans, ça a un blouson de cuir, ça a les cheveux un petit peu longs. Les idoles, c'est Elvis Presley, c'est le rock'n'roll. Ils ont quelques chaînes de vélo. Ils roulent sur des mobilettes 50 cm cubes dont ils ont enlevé le pot d'échappement pour faire un peu plus de bruit. Vous voyez, ce ne sont pas des bandes armées. Mais donc, le concert dégénère et finalement, le concert est arrêté. Le lendemain, dans la presse, ça devient un événement absolument national. De la gauche à la droite, on fustige cette jeunesse qui a fait le coup de force contre la police. Des filles ont été violées, des voitures ont été brûlées.
Des branches d'arbres brisées.
saccagées. Enfin, et il y a des articles dans la presse, mais absolument extraordinaires. Pour écrire mes deux livres, là, je les ai consultés. Et notamment l'article signé d'un certain Philippe Bouvard, qu'on connaît bien, et qui est ahurissant.
Ah oui.
Il dit tout simplement, entre le discours d'Hitler au Reichstag et la musique twist d'aujourd'hui, au fond, ce n'est qu'une question de musicalité. C'est la même chose.
Alors André Frossard aussi a des paroles terribles. Je les lis, puisqu'elles sont dans l'article. Quand on constate que trois idoles du twist n'ont qu'à paraître pour jeter 200 000 Parisiens de moins de 20 ans dans ces transes furibondes d'un invraisemblable culte de la nullité, on commence à se demander si l'écume est aussi différente qu'on le croit du bouillon.
Oui, alors là, il y a vraiment une scission qui va s'opérer entre d'un côté cette jeunesse. Ce sont des adolescents, c'est les baby-boomers, hein, en réalité. Et de l'autre, ce qu'on va appeler les croulants, c'est-à-dire qui ont plus de 30 ans. Vous êtes croulants quand vous avez plus de 30 ans. Et vraiment, on monte les uns contre les autres. Il y a un article très très intéressant, un double article qui paraît dans Le Monde quelques semaines plus tard, qui est signé Edgar Morin. Et Edgar Morin invente le mot « yéyé ». C'est lui qu'on doit cette terminologie. Et il dit au fond, mais qu'est-ce que c'est qu'être yéyé ? Yéyé, ça veut dire être jeune, c'est tout. Voilà. Et il faut remettre vraiment tout ça dans le contexte. Imaginez les gens qui ont 13, 14, 15 ans à l'époque. Bah oui, ils écoutent Johnny Hallyday. Ah oui, Johnny Hallyday, les paroles ne sont pas très, très, très intéressantes. Ce n'est pas une très, très grande musique. Mais ça emmerde tellement les parents. C'est ça le sujet fondamental, c'est-à-dire que ces jeunes gens et ces jeunes filles veulent trouver leur place dans la société et ils la trouvent notamment en écoutant de la musique qui est absolument honnie par leurs parents, comme d'ailleurs ses parents, pour certains lorsqu'ils étaient zazous pendant la guerre, c'est le titre d'un de mes précédents livres, lorsque ses parents étaient zazous pendant la guerre, ils écoutaient entre 1930 et 1945 une musique qu'on appelait le swing. Et le swing, c'était absolument inaudible pour leurs parents. Donc c'est une affaire qui se répète, en fait, une génération suivante, avec cette petite différence qui est essentielle, c'est que les Azous avaient en face d'eux des nazis, la collaboration, la guerre, la faim, la famine.
Et les privations de liberté.
Et les privations de liberté. Les yéyés, donc ces baby-boomers nés entre 45 et 55, c'est une situation totalement différente. Les guerres, la guerre d'Algérie bientôt terminée, sont loin, sont terminées. Ils n'ont pas en face d'eux la répression, ça n'existe plus. C'est pas trois flics avec une matraque, c'est pas de la répression, ça. c'est pas les nazis. Et surtout, ils peuvent consommer. C'est-à-dire que c'est la première fois, c'est la première génération qui a de l'argent de poche et qui peut consommer. D'ailleurs, on fabrique pour eux, comment dire, la culture de la consommation. Puisqu'ils ont de l'argent de poche, eh bien, ils vont pouvoir acheter des vêtements qu'on va fabriquer uniquement pour eux, des magazines uniquement pour eux, des émissions radio uniquement pour eux, du cinéma, etc. etc. Des vêtements, bien entendu. Voilà. Donc c'est une génération qui consomme. D'ailleurs, comme leurs parents aussi se mettent à consommer, c'est ça qui est assez troublant, parce que les jeunes gens et ces jeunes filles vont consommer, mais leurs parents aussi. C'est la première fois que ces gens peuvent, comment dire, peuvent acheter en grand nombre des machines à laver, des lave-vaisselle, des voitures, des télévisions, la radio. Enfin, c'est la France des 30 Glorieuses. Hein. C'est la France qui avance, qui a un projet collectif, qui ne connaît pas le chômage et qui a un chef charismatique pendant ces 10 années de reconstruction qui est Charles de Gaulle.
Et qui n'incarne pas non plus une grande modernité. C'est un peu un homme du passé pour
c'est
des ados.
C'est un peu un homme du passé, mais qui maintient cette France. Alors, dans une forme de ça, c'est le grand paradoxe, dans une forme de carcan. Hein, c'est une société qui est quand même encore très, très, très corsetée. Mais en même temps, on s'aperçoit avec le recul qu'il y avait quand même une liberté de ton, de parole, de création qui était absolument incroyable.
Enregistré le 25 avril 2018, c'était le romancier et essayiste Gérard de Cortance qui évoquait une des entrées de son dictionnaire amoureux des 60s paru chez Plon, donc la fameuse nuit du 22 juin 1963. Vous écoutez Radion et Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous propose un nouvel intermède musical et puis je glisse une information concernant le Club des écrivains de Bourgogne. Ce sera le mardi 29 novembre prochain. Dès 18h30 au Salon Napoléon III, le Club des écrivains de Bourgogne reçoit Yves de Gaulle pour son premier roman paru aux éditions Plon et qui a pour titre « Chevalier solitaire ». Yves de Gaulle, c'est effectivement le petit-fils du général de Gaulle et le deuxième fils de l'amiral Philippe de Gaulle. Il est notamment l'auteur d'un autre regard sur mon grand-père paru chez Plon en 2016. Mais depuis quelques mois, en librairie, on trouve son premier roman intitulé donc « Chevalier solitaire ». Il revient sur effectivement un des descendants des De Gaulle, Jean, un chevalier normand du XVe siècle, dont l'épopée est romancée dans son roman. C'est mardi 29 novembre prochain à 18h30 au Grand Hôtel de la Cloche dans le cadre du Club des écrivains de Bourgogne. Et puis vous entendrez l'entretien que j'enregistrerai avec Yves de Gaulle le samedi 3 décembre prochain, toujours à 11h sur Radion. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Suite de notre radio-archive avec une petite escapade en Côte d'Or, précisément à Saulieu, pour revenir sur la maison Bandelier, conçue par un disciple de Le Corbusier, André Wojcinski. Explication avec l'architecte Cyril Brûlé, enregistrée lors du Salon du Livre de Saulieu le 28 octobre 2018. Cyril Brûlé, qui a d'ailleurs signé un ouvrage intitulé La maison Bandelier, André Wojcinski à Saulieu. C'est chez Bernard Chauveau Éditions dans la collection Lieux d'architecture. Cyril Brûlé.
Oui, c'est ça qui me frappait, c'est que les gens parlaient de la maison du Corbu, la maison du Fada, on entend ça aussi dans ce lieu. Et j'ai voulu gratter parce que Le Corbusier, c'est une figure tutélaire pour tout architecte. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quelqu'un d'important. Et effectivement, c'est une enquête qu'on a menée avec Christelle, finalement, sur les traces remontées à la commande et voir que, effectivement, c'était au tout début une commande faite à Le Corbusier. Le vétérinaire s'adresse à Le Corbusier. Et puis, très vite, c'est André Wojcinski qui prend la relève et qui se charge de construire la maison.
Donc, la famille commanditaire de cette maison particulièrement originale, qui est d'ailleurs représentée par un grand nombre de photographies à l'intérieur de ce livre extrêmement, j'allais dire, érudit, très fourni en documents d'époque. Cette famille Bandelier est une famille originaire de Saulieu ?
Oui, c'est une famille du Morvan. On la retrouve à Semur, on la retrouve à Menserre aussi, un petit village du Morvan. Et puis Saulieu, donc c'est ce qu'on appelle un notable local. C'est un vétérinaire, Bernard Bandelier. Donc c'est quelqu'un de très important dans un chef-lieu comme ça, rural. Tout le monde va chez Monsieur Bandelier, pas pour faire soigner son chien ou son chat à l'époque, c'est pour le bétail, pour les vaches. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui sillonne toute la petite région, donc qui est très connu et assez, je dirais bizarrement, c'est ce qu'on a découvert en cherchant, c'est quelqu'un de très ouvert sur l'art contemporain de son époque, sur l'art moderne et sur l'architecture moderne.
Alors, à quel moment doit-on situer le lien entre la famille Bandelier et l'architecte qui va être retenu pour la construction de cette originale maison?
Alors, août 1955, le vétérinaire prend sa plume, ou sa femme, puisque c'est souvent sa femme qui écrit à sa place, pour s'adresser à Le Corbusier en disant, on a trouvé la lettre et on l'a reproduit d'ailleurs, elle est très belle, c'est « Je voudrais une maison pour ma famille, pour moi et ma belle-mère, etc. » Et puis, c'est le mois d'août 55, Le Corbusier n'est jamais à son agence au mois d'août, il est dans le sud de la France. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'ils s'entendent ou pas, mais c'est André Wojcinski qui répond et qui dit « Écoutez, j'accepte de répondre à votre commande. Je suis des chantiers en ce moment dans la région lyonnaise, donc je passe par Saulieu très souvent. Ça me plaît. Si vous voulez bien, c'est moi qui vais me charger de construire votre maison. » Donc 55-56.
Alors, ce monsieur Bandelier, en faisant appel à Le Corbusier, bon, non seulement on peut imaginer qu'il a les moyens en faisant appel à quelqu'un qui a une notoriété mondiale à ce moment-là,
oui,
et qui veut vraiment une maison originale, ou alors il a une passion et un désir très fort pour Le Corbusier. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Le Corbusier chez Monsieur Bandelier?
Ah, c'est assez compliqué à expliquer. On a cherché. C'est quelqu'un qui était proche d'un prêtre de la Pierre qui vire, notamment. Donc, on s'explique ça. Et la Pierre qui vire, à l'époque, était un foyer d'art moderne. Si vous connaissez le monastère, il y a une décoration très typique de cette année-là, de ces années-là, avec Marc Hénard, qui était un artiste proche dans cette mouvance architecte. Artiste. Et puis, c'est quelqu'un, Bandelier avait fait appel à un architecte local d'Autun auparavant pour ce projet. Et puis, il n'a pas voulu. Il a vu la première esquisse et il s'est dit non, je ne peux pas faire construire ça, c'est trop classique, c'est pas moi. Et donc, avec son épouse, c'est vraiment un tandem créatif important, il s'adresse à quasiment le plus grand architecte à l'époque. C'est un peu innocemment, hein, c'est un peu naïf, parce qu'il n'y avait pas de lien. Ils envoient cette lettre. Ils se disent, à mon avis, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? On essaye. Et finalement, ça a pas mal marché, puisqu'ils ont André Wojcinski, qui à l'époque est dans les traces de Le Corbusier. Donc c'est vraiment revendiqué, ils veulent une maison de leur époque, des années 50-60, avec tout le confort moderne à l'époque, avec de grandes baies vitrées, avec les couleurs, avec ce matériau en béton très marqué. Hein, donc c'est une volonté radicale.
Une maison en tout cas qui n'a pas beaucoup d'identité morvandelle. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'elle casse un peu le paysage local.
Alors, on peut le voir de deux façons. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'elle emploie beaucoup le granit du Morvan. Ça, le vétérinaire y tenait. C'est lui qui a insisté. Donc, vous avez des pans de mur en granit. Il n'y a pas plus morvandiaux que le granit. À l'intérieur, c'est la place qui est faite au bois. Un ébéniste local va faire tout le chantier, Bernard Buisson, qui va réaliser les placards, les portes, les dressings. Donc là encore, c'est le Morvan, c'est le travail du bois. Mais effectivement, sur la forme, c'est un cube, hein, toit-terrasse, des grands pans de mur très simples, très minimalistes. Donc pour moi, c'est une synthèse entre l'architecture traditionnelle du Morvan et les formes contemporaines.
Un mot sur André Vojanski. Donc, il est dans l'ombre de Le Corbusier, un propre élève du Corbusier.
Un disciple. On lui a toujours dit, vous êtes dans l'ombre hein, tout au long de sa carrière. Il a disparu dans les années 2000. Et il disait, oui, je suis dans l'ombre, mais quel soleil! C'était un fervent adepte de Le Corbusier, un défenseur. Quelqu'un qui a dirigé l'agence de Le Corbusier, qui était tout le temps en déplacement, Corbu, il était en voyage dans le monde entier. C'était André Vojanski qui faisait tourner la boutique dans les années 40-50. En 56, c'est-à-dire au moment où il construit la maison de Bandelier, il s'en va. Il crée sa propre agence. Il restera toujours très proche de Le Corbusier, mais il va commencer sa propre carrière en étant dans les pas de Le Corbusier, dans cette écriture brutaliste, dans cette même écriture, il utilise le modulor, hein, comme Le Corbusier. C'est ce rapport avec le nombre d'or qui permet de tout dessiner aux bonnes proportions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va poursuivre son propre chemin, mais dans la trace de Le Corbusier. Il va construire des bâtiments très importants, des hôpitaux, l'hôpital Necker à Paris, des sièges sociaux. Il va construire beaucoup au Moyen-Orient et il va finir sa carrière avec une grande université au Japon.
Ce qui effectivement est loin d'être négligeable.
Tout à fait.
Quelles sont les relations entre la famille Bandelier et l'architecte André Vojanski? Est-ce que les Bandeliers sont exigeants? Est-ce qu'ils ont la même conception de la maison? C'est difficile. Est-ce que Bandelier a dit à l'architecte, je veux une maison un peu cubique, je veux cela? Ou est-ce que c'est l'architecte qui propose des espaces nouveaux? Comment se passe le consensus et l'accord entre... Enfin, ma question peut paraître peut-être stupide,
m'adressant à un architecte
qui est confronté à cela, mais entre les désirs du client et l'architecte, le créateur, concepteur.
C'est toujours très actuel comme question, on se la pose tous les jours. Moi, j'ai des clients qui arrivent et qui me disent « Vous n'allez pas faire la maison que vous voulez, vous faites la maison que je veux. » Et on est toujours dans cet entre-deux. Vojanski a été assez clair au début. Il dit « Ok, j'accepte votre commande, il faudra me suivre. » Il y a quand même des principes sur lesquels l'architecte ne peut pas revenir. C'est ces formes contemporaines, cette écriture. Mais Bandelier est très proche, peu à peu, au fil de ces années, puisque ça va durer quand même 5 ans, hein, le projet, jusqu'à ce qu'il soit terminé entièrement. Il y a une relation d'amitié quasiment qui se crée. Les Bandeliers invitent fréquemment Vojanski à déjeuner quand il passe à Saulieu. Enfin, c'est une grande proximité et puis ils s'échangent beaucoup de lettres. Donc c'est une co-construction. Vojanski, je pense que c'est un de ses premiers projets seul et c'est très compliqué de construire une maison. C'est plus compliqué. Je dirais que c'est facile de faire un hôpital, un hôtel, un ministère. Une maison particulière, c'est extrêmement compliqué. On entre dans l'intimité du client. On devient forcément un peu partie de la famille. On peut s'affronter. Il y a une question de budget aussi, même si le budget était assez confortable. Il y avait de toute façon, dès le début, un budget limite. Et donc, c'est une très belle relation avec ses hauts et ses bas. C'est ce qu'on décrit. C'est vraiment ce qu'on a voulu décrire dans le livre. C'était au fil des lettres, on s'aperçoit que la tension monte parce qu'évidemment, le chantier ne se passe pas comme prévu. C'est toujours classique, c'est un grand classique. Bandelier demande des recommandés, demande des mises en demeure aux entreprises. Vojanski s'exécute, puis il rappelle quand même qu'on est dans le Morvan, il y a un climat, on ne peut pas travailler à toute saison. Il y a des moments de tension et puis ça s'adoucit puisque le client rentre dans ses murs et puis ça va mieux. Et puis, garde le lien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années 60, on a toujours des lettres qui se sont échangées. Les Bandeliers aimeraient que Vojanski revienne faire un projet de collège à Saulieu. Il lui redemande une commande pour un plan de la ville. Ce que Vojanski va refuser, puisque on a vu, je vous l'ai expliqué, il a une carrière qui est fulgurante. Et donc, dans les années 60, il est très pris, très occupé. Et c'est une très belle relation qui dure. C'est pas on vous rend les clés et c'est terminé, on se voit plus.
Alors, quelle est l'adresse de cette maison Bandelier à Saulieu?
Elle est Faubourg de l'Aussois, elle est rue Jean Bertin, mais je ne veux pas tellement vous en dire plus, elle est encore habitée cette maison.
Donc, et elle appartient donc toujours à la
voilà, aux enfants, ancêtres de, aux enfants de la famille Bandelier. Du vétérinaire qui l'habite toujours. Donc par respect pour leur intimité, voilà, il faut s'approcher. Vous prenez cette petite rue qui descend à côté de Bernard Loiseau et puis vous allez entreapercevoir cette maison, vous pouvez vous approcher mais pas trop.
Cyril Brûlé, vous l'avez visité forcément.
Oui, à nombreuses reprises.
Quelle impression avez-vous ressenti en la visitant, en allant à l'intérieur, en découvrant ses volumes? Vous m'avez dit, il y a une manière de circuler dans cette maison. Impression de l'architecte que vous êtes?
C'est un tour de force parce que c'est une maison assez petite, avec un programme compliqué, un laboratoire, un cabinet de vétérinaire, une maison, un appartement pour la belle-mère. Pour un architecte, c'est pas facile de combiner tout ça. Et néanmoins, Wojcinski arrive à faire des espaces très fluides dans lesquels on circule. Il y a une façon de tout ouvrir avec des parois coulissantes ou bien de refermer pour plus d'intimité. Et aujourd'hui encore, c'est une maison très moderne, très
elle
très
est fonctionnelle
adaptée,
encore en
très
2018.
Fonctionnelle aujourd'hui. C'est ce que tout le monde m'a dit. C'est ce que les... Maintenant, c'est la nouvelle génération. Il y a les petits-enfants de Bandelier qui adorent cette maison, qui s'y retrouvent. Les gamins adorent cette maison. Ils peuvent jouer, ils peuvent tourner autour de la cuisine. C'est vraiment... Et moi, j'ai interrogé beaucoup d'habitants de ce lieu qui ont pu y rentrer, qui ont des souvenirs. Ils m'ont tous témoigné de leur fascination et de leur intérêt, de leur attrait pour cette maison très ouverte sur le jardin, avec de grandes baies vitrées, mais néanmoins très chaleureuse.
Avant le début de cette interview, vous m'avez dit « ce n'est pas un livre d'architecture, mais c'est un livre de ressenti ». C'est important de ressentir, c'est aussi un livre d'histoire, c'est aussi l'histoire d'une construction. Vous le montrez à travers la publication, la reproduction des échanges entre l'architecte et le couple Bandelier. Ce ressenti, c'est quelque chose que vous vivez intensément ?
Oui, on voulait surtout pas, avec Christelle Lecoeur, faire un énième livre d'analyse architecturale, s'attacher à l'objet exclusivement. Donc on a voulu faire parler les habitants. Et c'est en ça, moi, que je m'intéresse beaucoup aux maisons. Je fais des conférences souvent sur les maisons parce que ça parle à tout le monde. L'architecture contemporaine, c'est compliqué. On n'a pas, dans la population française, une grande culture architecturale. Mais par la maison, on arrive à faire rentrer les gens, à leur faire comprendre les concepts d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est donner la parole aux habitants, aux voisins, aux témoins de l'époque, et puis aujourd'hui aussi, aux gens qui ont traversé cette maison. Parce que c'est avant tout une histoire d'usage. On peut faire la plus belle maison du monde en photo. Si elle ne fonctionne pas, si elle n'est pas habitée, ça ne sert à rien.
Avec votre ouvrage, vous avez mis finalement un puissant coup de projecteur sur cette maison dans cette belle ville de Saulieu.
Oui, oui, oui. Au niveau national, effectivement. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait et qu'on commence cette collection lieu d'architecture avec la maison de l'architecture de Bourgogne. C'est pour mettre des coups de projecteur sur des pépites. Notre territoire est parsemé comme ça de pépites très intéressantes, pas forcément faites par des grands architectes, mais à chaque fois révélatrices d'une histoire. Et on a envie de mettre d'autres coups de projecteur comme ça sur des petites villes comme Saulieu. Saulieu était très connu pour la route nationale 6, François Pompon, la basilique. Et bien aussi, c'est une façon de dire, il y a du patrimoine du XXe siècle. On est en train de le redécouvrir, ce patrimoine, aujourd'hui. Hein. Le XXe siècle, ça ne fait pas si longtemps qu'on y était. Donc, il y a un travail aussi de pédagogie à faire. Le béton, ces formes d'après-guerre, ce verre, des choses qui nous paraissent aujourd'hui à peu près normales et très banales. Eh bien non, en 56, c'était révolutionnaire.
À l'instant, l'architecte Cyril Brûlé, enregistré le 28 octobre 2018 lors du Salon du Livre de Saulieu. Je vous confie à nouveau les références de son ouvrage « La maison Bandelier, André Wojcinski à Saulieu », donc de Cyril Brûlé. C'est chez Bernard Chauveau Éditions dans la collection « Lieux d'architecture ». Juste après la pause musicale que nous allons vous proposer, vous entendrez un extrait d'un entretien enregistré en juin 2018 avec Régine Tessot pour 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté. Restez avec nous, excellente fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est en tout cas l'heure de l'apéritif, mais c'est aussi bientôt l'heure du déjeuner. Et cela tombe bien, puisque dans quelques minutes, nous allons vous proposer un entretien avec Régine Tessot, qui donne une place essentielle à la gourmandise, au plaisir de la table et à la bonne chère. En effet, Régine Tessot signe avec Christiane Jean un beau livre réjouissant et chaleureux intitulé « Amour, cuisine et volupté, 140 recettes aphrodisiaques ». C'est un ouvrage qui est disponible aux éditions Erol. Moutarde au ginseng, cuisse de grenouille, huître, chocolat, de quoi donner au plat une touche coquine pour éveiller tous nos sens. Entrée, plat, douceur, boisson et recette choc pour avant et après l'amour, mais aussi petits poèmes, anecdotes ou dictons fripons. Régine Tessot à notre micro.
Oui, nous avons dans un premier temps cherché à trouver des poèmes érotiques qui avaient tous un trait à la cuisine en incluant le mot vin, épices, pain. Et on en a trouvé beaucoup et c'était très intéressant et c'était très joli. Et nous avons aussi cherché beaucoup d'anecdotes sur les aphrodisiaques. Pourquoi ces aphrodisiaques? Pourquoi ça fonctionnait? Quels étaient les ingrédients qui étaient à l'intérieur qui permettaient de considérer que c'était des aphrodisiaques? Alors c'est vrai que dans un livre de cuisine un petit peu ludique et glamour, le côté médical n'est pas très intéressant, mais on peut quand même, par exemple, citer que l'ail, qui est considéré comme un aphrodisiaque, l'est parce qu'il contient de la lysine qui est un vasodilatateur. Donc ceci explique cela et c'est pour ça que nous pouvons considérer que tous ces produits sont aphrodisiaques.
Alors le poivre est également un aphrodisiaque puissant. Il avait d'ailleurs une appellation très particulière.
Alors il y a deux appellations, une première appellation qu'on pourrait dire un petit peu vulgaire qu'on appelle cricabit et une autre un petit peu plus élégante qui s'appelle plaisir de Vénus.
C'est extraordinaire de se rendre compte que finalement l'Église interdisait aux nonnes et aux prêtres de cultiver certaines plantes réputées aphrodisiaques. C'est le cas notamment de deux dont vous m'avez parlé. Donc d'abord, il y a la roquette et également la sarriette, me semble-t-il.
Tout à fait. Donc l'Église interdisait totalement aux moines de cultiver et aux nonnes de cultiver la roquette. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la roquette. C'est une salade absolument délicieuse qui a effectivement un petit goût poivré. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils considéraient que c'était un aphrodisiaque puissant? Et c'était totalement interdit aux moines.
Alors, on dit on peut avoir affaire à une belle en cuisse, mais une belle en cuisse de grenouille. Parce que la cuisse de grenouille est aphrodisiaque. Alors là, j'apprends quelque chose.
La cuisse de grenouille est aphrodisiaque, non pas parce qu'elle est grenouille, mais parce qu'elle mange de la mouche cantaride. Et la mouche cantaride est un puissant aphrodisiaque qu'ont utilisé notamment c'est Monsieur Casanova et le marquis de Sade dans leur partie fine, à tel point qu'un jour ils ont eu des soucis parce que en mettant dans du chocolat, ils ont eu des malaises et peut-être même, je crois, des morts, ce qui leur a valu à l'un la Bastille et à l'autre les prisons de plomb.
Les plombs de Venise.
Les plombs de Venise, voilà.
Alors, la mer offre aussi des nourritures aphrodisiaques, c'est le cas, les huîtres. Sont
oui.
reconnus comme particulièrement aphrodisiaques. Et là, sur les huîtres, une petite anecdote à nous confier.
Oh, une petite histoire drôle. C'est une dame qui se plaint de l'indifférence de son mari, qui demande à son amie ce qu'elle pourrait faire. Elle lui dit, mais fais-lui manger des huîtres, c'est terriblement aphrodisiaque. Et quelques jours après, elle vient aux nouvelles. Elle lui dit, écoute, je sais pas, parce que je lui en ai fait manger une douzaine, mais il y en a que 9 qui ont marché. L'huître s'appelle aussi oreille de Vénus.
Ah,
en termes aphrodisiaques.
Il y a reproduit dans votre ouvrage des poèmes. Alors, vous avez puisé dans tous les siècles, hein, que ce soit le 16e avec ce qu'on appelle la Belle Cordière, Louise Labbé, ou des gens qui, comme François de Malherbe, sont connus plutôt dans le registre, effectivement, de l'éloge funéraire et qui, parfois, se laissent aller à des écrits libertins, coquins ou légèrement débauchés.
Oui. Alors, je peux vous en lire un. Donc François de Malherbe, qui est plutôt connu pour ses adresses aux princesses mortes, s'est un jour commis à écrire un sonnet qui dit ceci. « Là, là, pour le dessert, troussez-moi cette cote. Vite, chemise et tout, qu'il n'y demeure rien, qui me puisse empêcher de reconnaître bien du plus haut du nombril jusqu'au bas de la motte. »
Eh bien, dites donc.
Voilà, 1555, 1628.
Je n'aurais jamais soupçonné cela sous la plume de François de Malherbe. Page 11, je vais peut-être vous demander de nous le lire. Il y a le baiser de Paul Éluard, qui est aussi un texte puissant et révélateur, comme un aphrodisiaque d'ailleurs.
Oui, très beau. Très beau poème de Paul Éluard. Toute tiède encore du linge annulé, tu fermes les yeux et tu bouges. Comme bouge un champ qui naît vaguement, mais de partout. Odorante et savoureuse, tu dépasses sans te perdre les frontières de ton corps. Tu as enjambé le temps. Te voici, femme nouvelle, révélée à l'infini. C'est beau, hein, c'est magnifique.
Merci Régine. Alors, les vertus du céleri, connues déjà au XVIIIe siècle, par la marquise de Pompadour l'utilisait en gratin pour garder le roi soleil auprès d'elle.
Pour faire craquer le roi. Et au Moyen-Âge, on disait si on connaissait les vertus du céleri, on en remplirait son coutil. Et même, certains disaient que si on savait, pareil, si on connaissait les vertus du céleri, on courrait de Paris à Rome pour en trouver.
Je suis très surpris d'apprendre, en feuilletant votre ouvrage, Régine, que la moutarde a des vertus aphrodisiaques.
Oui, la moutarde a des vertus aphrodisiaques. Au Moyen-Âge, on appelait ça mou ardent, M-O-U, accent circonflexe T. Et George Sand, qui en était grande consommatrice, disait, je ne rentre pas dans les détails que je ne connais pas, s'amuser à la moutarde.
Alors, il y a des femmes qui sont des dévoreuses d'hommes. Je pense à Catherine de Russie, qui notamment ingurgitait d'importantes quantités de caviar.
Oui, elle consommait du caviar et elle demandait à ce qu'on lui livre à la fois le caviar en même temps que son plus bel officier d'apparat. Elle en consommait, voilà, tous les jours.
Régine Tessot, l'artichaut. Alors, vous parlez des cris de Paris. J'aimerais que vous rappeliez un peu ce qu'on appelle les cris de Paris et que vous nous parliez de l'artichaut. C'est page 36 d'ailleurs, mais vous le connaissez peut-être par cœur.
Alors, c'était dans les petites charrettes qui passaient dans Paris avec des légumes et tout. Et il y avait les gens qui criaient à une époque. Il y avait les aiguiseurs, je ne sais pas comment on disait, de couteaux et ceux qui vendaient des vitres. Et puis, il y avait les gens qui vendaient des petits légumes et qui criaient. Artichaut, artichaut, c'est pour monsieur, c'est pour madame, c'est pour tenir le cul au chaud.
Alors Pierre-Louis, que l'on connaît pour la chanson de Bilitis, a aussi écrit quelque chose d'absolument formidable sur l'asperge qui a des réputations. Enfin, évidemment, elle a une forme très phallique, l'asperge, c'est évident.
L'asperge, forcément. Oui, effectivement. Mais
c'est page 34, donc,
page
dans
34.
Votre
donc,
ouvrage,
Pierre-Louis écrivait. Ne faites pas aller et venir une asperge dans votre bouche en regardant languissamment le jeune homme que vous voulez séduire.
Et vous aussi, avec votre camarade d'écriture, vous avez inventé deux maximes, deux proverbes.
Oui, nous avons inventé deux proverbes. Donc le premier, c'est « Mieux vaut une grosse gourmande qu'une maigre picoreuse » et « Chipote à table, chipote au lit ».
Alors les boissons sont aussi réputées aphrodisiaques. Alors, peut-être que la plus efficace, c'est la coupe de champagne à la liqueur de rose.
Oui, c'est absolument délicieux. Et c'est vrai que c'est un explosif, c'est un mélange. On dit que certains produits dégagent des endorphines. Là, ça doit produire je ne sais quel produit qui fait que c'est extrêmement, extrêmement aphrodisiaque. Et totalement délicieux en plus.
Alors peut-être moins délicieux, mais tout aussi efficace pour un homme qui connaîtrait une grosse fatigue, notamment sexuelle, c'est le jaune d'œuf dans un verre de bière brune. Tout de même, il faut
oui,
avoir
alors là,
le
il faut
cœur
être vraiment
bien accroché,
très fatigué.
Hein.
Oui. Bon, mais bon, il y a des choses peut-être plus sympathiques. Mais alors, on dit que, par exemple, on dit que le champagne a trois vertus. Le champagne est aussi un excellent somnifère. Et on dit un verre de champagne dans les bras de Morphée, deux verres dans les bras de ton amoureux.
À l'instant, c'était Régine Tessot, enregistrée en juin 2018 lors du Salon du Livre du Lions Club qui se tenait alors au château d'Ancy-le-Franche. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Régine Tessot que vous venez d'entendre, donc ouvrage disponible aux éditions Erol. En voici le titre, 140 recettes aphrodisiaques, amour, cuisine et volupté, un ouvrage réjouissant et chaleureux. De quoi donner au plat une touche coquine pour éveiller tous nos sens, donc entrée, plat, douceur, boisson pour avant et après l'amour, mais aussi petits poèmes, anecdotes ou dictons Fripon. Notre wagon-livre touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez sur le site d'archives de wagon-livre via internet www.yannickpetit.fr. Prochain rendez-vous samedi 3 décembre, toujours à 11h sur Radion, avec un entretien avec le romancier Yves de Gaulle pour son premier roman paru chez Plon et intitulé Chevalier solitaire. Yves de Gaulle, ancien conseiller d'État, petit-fils du général de Gaulle, qui sera donc devant notre micro. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.